L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Oui, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain de beurre. En librairie, on vend, on achète des livres. En bibliothèque, on prête et on emprunte. Si ces dernières existent depuis l'Antiquité, leurs formes, leurs objectifs et leurs méthodes de classement ont bien évolué. Organisation, conservation et accessibilité sont trois des maîtres mots de ces lieux dédiés au 5e art. Bienvenue à l'Épluche Livre, aujourd'hui nous décortiquons les bibliothèques.
Je connais quelqu'un, Eric avec des i.
Irma ira dans l'île, y chercher des iris, d'igue-donda, d'ondaine, et des petites fleurs de lys, et des volubilis.
C'est Anne Desfossés qui est au fourneau aujourd'hui. Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référente médiathèque. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Alors, référente, autre mot pour dire responsable d'une médiathèque municipale au CRES, donc en périphérie de Montpellier. Et on n'est que deux, c'est une petite équipe. Et donc, mon rôle, c'est d'organiser toutes les missions de toutes les deux, en fait, de notre équipe. Et,
et le quotidien, c'est vous qui gérez l'organisation.
Voilà, le quotidien, les projets à mettre en place. Ouais. Y a beaucoup de missions, en fait.
Ouais. Comment on devient bibliothécaire ?
Alors, il y a beaucoup de voies différentes pour devenir bibliothécaire. Donc, moi, je peux parler de mon expérience, mais c'est vrai que ce n'est pas la seule voie possible. Après des études d'anglais, parce que j'aimais beaucoup l'anglais, moi j'étais littéraire et je me suis orientée vers l'anglais après le bac, je me suis rendu compte que vraiment ce que j'aimais, après notamment un stage en librairie, ce que j'aimais c'était le contact avec le public et vraiment les livres et cet univers culturel. J'ai toujours aimé les médiathèques et donc je me suis dit mais pourquoi pas aller dans cette voie-là. Et j'ai découvert qu'il y avait des formations, des études pour devenir bibliothécaire. Je crois qu'à l'époque, je ne savais même pas qu'on pouvait...
Vous avez commencé à quel âge à vous dire « j'ai envie d'être bibliothécaire » ?
Alors, si j'y réfléchis bien, je crois que toute petite déjà, je voulais être bibliothécaire parce que je jouais à la bibliothécaire. Au lieu de jouer à la marchande, moi, je passais les livres, je faisais bip,
c'est
bip.
Rigolo.
Voilà, donc je crois que ça a toujours été... en moi, mais quand vraiment j'ai réalisé que je pouvais en faire un métier, c'était, voilà, j'avais une vingtaine d'années, 22 ans, je crois.
Et quelles études avez-vous choisies, alors ?
Donc, à l'époque, ça s'appelait... j'ai fait un DUST, Information, Documentation, Option Médiathèque, à Lille. Et je crois que ça a changé maintenant, donc ça doit être l'équivalent d'un DUT métier du livre.
Certainement, oui.
Voilà, donc c'était en 2 ans. J'avais envie de faire un diplôme professionnalisant plus, pour rentrer plus vite dans le métier. Donc en 2 ans, cette formation. Et ensuite, j'ai eu des petits contrats, d'abord en centre de documentation, dans un lycée. Et ensuite, je suis partie à l'étranger, à Londres.
Très bien.
Et où j'ai pu exercer en tant que bibliothécaire, donc à Londres.
Super, dans quelle bibliothèque ?
Donc en banlieue aussi de Londres, Chiswick, où j'ai commencé. Donc là, c'était juste du rangement. J'ai commencé en bas de l'échelle. Et j'ai même pu, au bout de quelques années, devenir responsable d'un secteur. Et ouais, c'est super expérience.
Incroyable.
Tout en sachant que les bibliothèques en Angleterre, ce n'est pas exactement la même chose qu'en France. Hein. Y a vraiment des différences, mais bon.
Oui, justement, les bibliothèques en France, quand on parle bibliothèque ou médiathèque, en fait, on parle de plein de choses différentes, suivant si c'est une bibliothèque municipale, si c'est quelque chose de privé, de départemental. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette différence ?
Oui, il y a vraiment des c'est large, bibliothèque, médiathèque. On part de la petite bibliothèque associative, gérée par des bénévoles, à des médiathèques, bibliothèques municipales, comme pour laquelle je travaille. Il y a les médiathèques de réseau, comme à Montpellier, c'est un réseau de médiathèques, bibliothèques universitaires, et puis même des bibliothèques d'entreprise.
Enfin, tout à fait.
C'est assez vaste. Hein.
Des bibliobus.
Alors, bibliobus, donc la médiathèque départementale.
Très bien.
Ici, c'est Pierre-Vive. Donc, là aussi, c'est encore autre chose, même si le cœur du métier reste le même.
Et justement, ce cœur de métier, quel est-il ?
Développer la lecture publique, faire vivre la culture, pas uniquement les livres. C'est ça aussi, je crois que beaucoup de gens ont encore en tête. C'est que la bibliothèque, c'est pas juste un endroit où on vient emprunter des livres et c'est tout. C'est vraiment beaucoup plus large que ça et on peut, c'est un endroit, même, on parle même maintenant de tiers-lieu.
Oui.
Où la culture est sous toutes ses formes, donc des livres évidemment, mais des jeux, l'informatique, le numérique, le film, le cinéma, enfin
des rencontres,
des expositions, enfin c'est très très vaste. C'est vraiment un lieu culturel à
part
entière.
Et en ça, les bibliothèques et les librairies se rejoignent un peu, étant donné que nous sommes nous aussi conjointement acteurs culturels sur des territoires, donc de façon différente, mais on rend accessible le livre, les textes, la culture au public. Donc en librairie, nous avons des lecteurs, des clients. En bibliothèque, ce sont des usagers.
Des usagers, des adhérents.
Voilà. Comment ça se passe ? Comment on devient usager ou adhérent d'une bibliothèque ?
En s'inscrivant, il faut s'inscrire, ouais, c'est tout simple. Est-ce que, par exemple, je vous dis chez nous, comment ça se passe ?
Oui, c'est
donc au CRES, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 18 ans. Donc il suffit de venir avec un justificatif de domicile, une pièce d'identité. On vous fait une carte d'adhérent et on peut emprunter. Les adultes, c'est 5 euros l'année.
D'accord.
C'est pas énorme, voilà. Et on, voilà, juste avec ces papiers-là, on devient adhérent et on peut emprunter les livres. En sachant que même sans adhérer à une médiathèque, c'est un lieu ouvert à tous, un lieu public. Parfois, on a des gens qui viennent et se demandent « je ne suis pas adhérente, est-ce que je peux rentrer, m'installer, lire ?» Évidemment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un lieu public. Et voilà.
Très très chouette, c'est une belle mission professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre quotidien le lundi matin, quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe ?
Le lundi matin, on est fermé.
Le mardi matin.
Voilà, donc normalement, voilà, c'est vrai que les bibliothèques médiathèques sont fermées le lundi, en règle générale. Donc, notre semaine va du mardi à samedi. On n'est pas ouvert au public tout le temps, ce qui étonne parfois les gens qui pensent qu'on ne travaille pas beaucoup. Ils pensent que voilà, on est là que pour les accueillir. Or, quand la médiathèque est fermée, on travaille, on a plein de missions différentes. On accueille des écoles, on accueille des tout petits, 0-3 ans, on se déplace dans des crèches, on organise nos événements, on fait des acquisitions de livres, on se déplace en librairie, on équipe les livres.
Vous équipez les livres ?
Alors, équiper les livres, c'est les tamponner, on fait du catalogage ensuite, on rentre le livre dans notre logiciel pour qu'ensuite il soit disponible sur notre catalogue. Donc, tout ça, c'est du travail qui se fait derrière et pour que ça soit accessible au public. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait tellement de choses que...
Les horaires d'ouverture au public, quels sont-ils ?
Au CRES ?
Oui.
Alors, on est ouvert le mardi après-midi de 14h à 18h, le mercredi toute la journée de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le jeudi, on est fermé, la journée consacrée aux collectivités, à l'accueil des classes, entre autres, et notre travail aussi de préparation. Le vendredi après-midi, on est ouvert de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Donc là, c'est les moments où les personnes peuvent venir consulter, emprunter, rendre des livres.
Exactement.
Ou participer à des ateliers, des animations, des rencontres.
Oui, sachant que ces rencontres, ces animations peuvent se faire aussi en soirée.
D'accord.
Une fois que la bibliothèque est fermée, donc on a régulièrement des rencontres, des animations le soir, voire le samedi après-midi. Ou...
Et ça, ça vient en plus donc, de votre travail.
Oui, oui.
C'est
oui,
des
oui,
horaires,
tout à fait. Ça peut faire des longues semaines quand on enchaîne tout, voilà, entre la préparation et l'accueil du public qui reste quand même au centre. Mais on doit aussi faire toutes ces préparations et ces animations. En plus,
oui, voilà. Ça se travaille.
Ça se travaille. Oui, ça se travaille, et tant que deux, et effectivement, on ne s'ennuie absolument jamais.
Combien de livres avez-vous référencés dans votre bibliothèque ?
Alors, actuellement, je crois qu'on est à 14 000 documents.
D'accord.
Voilà.
Donc, documents, c'est-à-dire livres, CD ou...
Alors, on n'a pas de CD, on a des DVD,
oui.
Des périodiques, des magazines. Depuis peu, on a des jeux de société.
D'accord.
Pour l'instant, ils ne s'empruntent pas, mais on peut venir jouer sur place. Donc, on développe ce fond et bientôt des jeux vidéo aussi. Voilà. Non, pas de CD, sinon.
Donc, 14 000 documents. Pour avoir ces documents, il faut travailler des achats pour vous. Donc, il faut...
C'est une de mes missions. Ouais.
Voilà. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter cet aspect-là de votre travail, la gestion des achats? Et une fois que les livres sont achetés, qu'est-ce qui se passe? Comment ils arrivent à la bibliothèque et comment vous les classez? Voilà, ce petit chemin-là.
Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Alors déjà, on fait ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire qu'on se tient au courant de l'actualité littéraire via des sites spécialisés, des magazines, des émissions de télévision. On écoute aussi beaucoup nos lecteurs, nos adhérents qui nous font des suggestions d'achat. On connaît son lectorat, donc après, voilà, on va en fonction... On s'adapte toujours au public, enfin moi en tout cas, et j'essaie toujours d'aller vers des titres qui pourraient aussi... vers lesquels ils n'iraient pas, mais qui pourraient les intéresser. Mais on doit vraiment s'adapter à notre public. Donc après, on travaille avec des librairies, plusieurs, parfois spécialisées, parfois généralistes. On fait une sélection, soit en ligne, et dans ces cas-là, on est livré. Soit on peut aller sur place en magasin, et dans ces cas-là, ça permet de parler avec les libraires et d'avoir des conseils plus spécialisés. Plus, voilà.
Très bien. Donc ensuite, vous passez la commande ou vous passez vos achats. Le libraire a charge à elle ou à lui de vous apporter les livres, suivant l'accord que vous vous êtes donné. Voilà, donc. Les livres sont arrivés à la bibliothèque, ils sont en carton.
Oui.
Que se passe-t-il à ce moment-là?
Alors, on ouvre le carton et là, c'est Noël. C'est, voilà, donc les titres, on regarde si tous les livres sont bien présents. Ensuite, on les, donc ce que je disais tout à l'heure, on les équipe. Mm-hmm. Donc on va les tamponner, on va écrire la date. Ensuite, on va les cataloguer. Donc, avec le. C'est un peu technique.
Oui, mais on est là pour ça.
Donc, grâce à l'ISBN, il y a une notice qui va se télécharger sur notre logiciel qui permet d'avoir la fiche en fait, du livre.
Très
bien. Et ensuite, on va exemplariser le livre, lui donner le numéro donc, pour dire que ce livre maintenant appartient à notre bibliothèque et qu'on puisse le prêter. Et ensuite, on recouvre les livres. Ça, c'est toute une. Avec un adhésif spécial, toute une technique aussi, ça. et je crois que c'est tout. Et après, il est mis en rayon, rangé et empruntable.
Très bien.
Voilà.
Alors, pour les auditeurs, donc ISBN, c'est la même chose maintenant que EAN. Donc, c'est un numéro sériel qui sert à identifier le livre. C'est-à-dire que lorsqu'un livre a été publié, il a... un code barre. Ce code barre est lisible et identifiable grâce à 13 chiffres qui commencent souvent pour les livres par 978 ou 979 maintenant, tiré 2, tiré tous les autres chiffres dans lesquels on peut identifier l'éditeur, la collection et les trois derniers numéros qui sont vraiment essentiels à l'ouvrage, au titre. Voilà, cité.
C'est tout à fait ça.
Et ça nous permet, nous, en tant que libraire et bibliothécaire, de bien parler du même ouvrage parce que Imaginons Au bonheur des dames de Zola. Il existe dans plusieurs éditions.
C'est ça.
Voilà. Donc, avec des préfaces ou avec des annotations différentes. Donc, quand le bibliothécaire se met d'accord avec son équipe pour commander un titre, il nous faut, nous, en tant que libraire, la référence exacte. Et c'est vrai que l'ISBN ou le AN, c'est hyper pratique.
Ouais, c'est la carte voilà. d'identité du livre.
C'est ça, voilà. Exactement. On poussera un petit peu plus après la pause musicale sur le détail de votre métier. Bonjour à nouveau, vous écoutez Les Pluches Livres. Nous sommes en compagnie d'Anne Desfossés, donc qui est bibliothécaire à la médiathèque du Crès, pas loin de la librairie, en métropole Montpellier-Rennes.
Oui.
Voilà, je ne dis pas de bêtises, tout va bien. Donc, Anne, vous aviez choisi le morceau que nous venons d'écouter.
Voilà,
oui,
extrait de Grise, que à mon avis tout le monde connaît. Ben en fait, c'était très dur de choisir un morceau parce que j'adore la musique et j'écoute tout le temps de la musique. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'en écoute pas. Et donc, c'était très étrange pour moi de choisir un titre en particulier. Ça aurait pu être de l'électro, du rock, du jazz. Donc, j'ai repensé à ce morceau qui est finalement mon premier coup de cœur musical. Je devais avoir 3 ans.
Mais non.
Et c'est lié à une anecdote un peu marrante.
Ouais.
C'est que donc j'avais 3 ans et mon papa, qui est un grand amateur de musique classique, avait acheté ce 33 tours de musique classique. Je crois que ça devait être Bach ou un truc comme ça. Et au moment de le mettre sur la platine, il y avait eu une erreur et c'était le disque de Grise. Donc, et on ne l'a jamais ramené ce disque parce qu'en fait, du haut de mes 3 ans, j'ai été scotchée, j'ai été au baffle et on l'écoutait en boucle, en boucle, en boucle. Et ça a vraiment été voilà, mon premier coup de cœur. Et quand je l'écoute, c'est plein de souvenirs. Mmh. Et voilà, j'aime beaucoup ce morceau.
Oh, c'est voilà. Très très beau, merci hein, de nous avoir fait partager ce moment. Donc nous parlions de votre quotidien, nous avons parlé avant la petite pause musicale du chemin que prenait un livre avant d'arriver sur les rayonnages de vos bibliothèques. Maintenant, une fois que le livre donc, va être rangé, comment vous le rangez? Comment vous classez les livres? Parce que l'objectif, nous, en librairie, c'est qu'un livre se vende. Donc, éventuellement, oui, on le ventile, on le catégorise. Mais si le livre, cet essai sur l'écologie, ne se vend pas en rayon écologie, on peut peut-être aussi le déplacer, le mettre en avant différemment dans la librairie. En bibliothèque, vous avez plutôt un objectif de classement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce regard?
Alors, certes, on a un classement, mais on n'est pas si éloigné de vos pratiques, en fait. Et en bibliothèque, c'est justement une évolution qui est un peu en train de se faire. On parle même de merchandising en bibliothèque. Donc, vous voyez. Et on peut aussi sortir un livre, le déclasser, entre guillemets, le mettre en avant dans une thématique générale, le mettre en facing. Voilà. Donc, on essaie justement de développer ça. Mais sinon, de manière générale, le livre a aussi une cote, j'ai oublié ça dans l'équipement tout à l'heure, où voilà, on met, par exemple, pour les romans, ça va être R, pour les romans policiers, RP. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les documentaires, alors c'est encore différent, sont classés selon un numéro, ça s'appelle la classification D-Way, qui est une classification assez... contraignante, enfin, elle a le mérite d'exister, mais pareil, on s'en éloigne un peu actuellement. Mais donc chaque grand domaine de connaissances est classé par numéro. Par exemple, psychologie, c'est les 100. La musique, ça va être 500. Voilà. La science-fiction, pareil, elle va être classée en RSF.
Très bien.
Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se repère dans la bibliothèque, selon des rayonnages.
À tout moment, vous devez savoir où sont les 14 000 documents référencés.
Voilà, voilà, exactement.
OK. Et une fois que tout ça c'est fait, bon, très bien, vous accueillez vos adhérents, vos lecteurs, vous répondez aux différentes questions, vous travaillez les mises en avant, le merchandising ou le marchandisage,
les thématiques.
Ouais. Et vous gérez aussi un planning d'animation.
Oui, ça c'est l'autre grande partie de notre travail, parce que le livre, même s'il est encore au centre de notre métier, c'est vraiment qu'une partie finalement. De notre métier de bibliothécaire, une grande part est consacrée à l'animation et aux actions culturelles, à savoir voilà, que nous, on est au service d'une collectivité, d'une municipalité et des élus, notamment d'une élue à la culture qui va avoir, qui va donner l'axe dans lequel on va nous proposer un programme culturel. Donc, on s'adapte, on agit en fonction de ces besoins-là et de ces désirs-là. Et nos animations sont très diverses. Par exemple, pour cette année, rien que ce soir, voilà, on a les nuits de la lecture. Je ne sais pas si vous y participez.
En librairie, on peut. Là, on n'y participe pas cette année, mais beaucoup de librairies participent, et notamment conjointement aussi avec des bibliothèques, on peut collaborer.
Exactement. Donc nous, ce soir, là, justement, on a une animation en soirée, un peu soirée pyjama, donc plus enfants, famille, avec du yoga, autour d'un conte, des lectures, bien sûr, et puis un film dans une ambiance conviviale. Donc ça, c'est une sorte d'animation. On va avoir aussi, un peu plus tard, une journée consacrée à la BD, donc en invitant des auteurs, pareil, avec des ateliers, des animations. Bientôt, une exposition de peinture d'une jeune artiste, Donna. Donc là, c'est de l'art abstrait, vous voyez. Donc voilà, on essaie vraiment d'offrir au public toutes sortes de...
De propositions culturelles.
Exactement.
Afin de voir...
Très diversifiées. Ouais. Et voilà.
Oui, ouais, mais c'est très très important. Vous parliez des élus tout à l'heure. Est-ce que les élus ont un regard sur la gestion de votre fonds en bibliothèque?
Alors, ils ont un regard, ça c'est sûr, sur notre activité, mais sur le fond, le bibliothécaire est quand même responsable, enfin, c'est lui qui gère les achats et le fonds. Il y a une politique documentaire pour chaque bibliothèque, et c'est le responsable qui s'en charge. Qui s'en charge de ça.
Il n'y a pas un regard a posteriori?
Pas vraiment.
D'accord.
Après, non, c'est une question de confiance. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème de censure, de choses comme ça, sur nos collections.
Super, super. Voilà. Donc, en bibliothèque, je ne pouvais pas ne pas parler de l'organisme du droit de prêt en bibliothèque, ouais, qui s'appelle la SOFIA, en cœur. Donc, c'est un organisme qui a pour but de récolter de l'argent à destination des auteurs pour leurs droits d'auteur, parce qu'il s'avère que quand un livre est acheté par une bibliothèque en librairie, donc il est vendu une fois, partant de là, il y a une part du montant du livre qui va bien sûr à l'auteur, mais une part, tandis que le livre va être emprunté des dizaines de fois, on l'espère, si le bibliothécaire a bien fait son travail. La SOFIA se positionne ici en tant qu'organisme collecteur. Donc nous, libraires, nous avons une redevance au droit de prêt qui est de 6%. Les bibliothèques déclarent leurs achats.
Oui.
Et de votre point de vue, comment ça se passe avec la SOFIA?
Avec la SOFIA, c'est une fois par an.
Ouais.
On a un formulaire à remplir en reprenant tous les achats qu'on a fait au cours de l'année auprès des différents libraires.
D'accord. C'est tout simplement, simple, vous faites la remontée des achats.
Tout à fait.
Très bien.
C'est obligatoire et une fois par an, il faut se charger de ça, oui.
Très bien. Et donc, les libraires font aussi en regard la remontée donc, des factures,
ouais,
pour le coup.
Oui, oui.
Et la SOFIA compare, est-ce que tout est OK, puis envoie le montant de la redevance aux libraires. Et il y a aussi une part qui est abondée par l'État,
oui,
par rapport aux droits d'auteur. Vous connaissez le montant du taux de cette part? J'ai un trou là.
Oui, moi bon. Aussi.
C'est collectif, c'est fait pour stabiliser, on en parle dans cette émission régulièrement, les auteurs vivent rarement de leurs plumes.
Ouais.
Quand ils en vivent, c'est assez mal. Voilà, donc c'est quand même c'est très lourd,
c'est
pour les librairies. C'est, enfin, financièrement, pour les librairies, c'est quand même pas rien,
ouais,
6%. Mais il n'empêche que c'est une proposition qui est faite et qui est importante. Voilà, les auteurs étant le premier maillon de la chaîne du livre. Donc,
oui.
C'est quand même, on ne pouvait pas parler des bibliothèques sans parler de la
tout
SOFIA.
À fait.
Pour terminer cette émission, est-ce que vous auriez un conseil lecture, Anne?
Récemment, si vous voyez ma pile à lire, elle est énorme et j'ai pas le temps de tout lire, mais récemment j'ai lu une super BD,
ouais,
assez poignante, Lebensborn.
D'accord.
De Isabelle Maroger.
Ouais.
Et ça traite d'un sujet historique dont on parle peu, c'est les maternités nazies,
ouais,
qui ont été créées pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Norvège. Et voilà, dans cette BD, on suit une jeune femme dont la maman est issue de ces maternités et qui va découvrir sur le tard ses origines. Ça m'a beaucoup, beaucoup émue. Et je trouve qu'en BD, c'est encore... Enfin, c'est un genre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, la BD. Enfin, où je m'intéresse maintenant à la BD. Et c'est vraiment super. Et je la conseille 100%, cette BD, donc Lebensborn de Isabelle Maroger.
Très bien.
Voilà.
Un super conseil lecture. Quant à moi, si les auditeurs s'intéressent au monde des bibliothèques, à la librairie, nous avons sélectionné 3 titres, donc 2 romans. Le premier, La bibliothèque des petits miracles de Freya Sampson, ou comment des usagers font tout pour sauver la bibliothèque de leur petit village.
Très très bon choix.
Merci. La bibliothèque des rêves secrets maintenant, aux éditions J'ai lu, écrit par Michiko Aoyama.
Oui.
Là, nous sommes plutôt sur une bibliothécaire un peu intrigante. Ça, c'est peut-être vous d'ailleurs,
oui,
qui est
voilà,
décrit.
Qui sait.
Donc, cette bibliothécaire mystérieuse offre un livre à ses visiteurs. Un livre tout particulier, choisi spécialement pour la personne qui vient la solliciter. Et ce livre doit guider le lecteur au carrefour de leur vie.
Beaucoup de succès chez nous, en tout cas,
ouais,
ce livre.
Ouais. Chez nous aussi. Ah chez ben, nous aussi, c'est pour ça.
C'est un auteur, ouais, qui plaît beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Et enfin, pour un public plus familial, alors ça, c'est un, une collection qu'on aime beaucoup à la librairie. Ma première aventure, une histoire dont on est le tout petit héros. Donc, c'est un livre-jeu.
Sympa, ça.
Ouais, qui s'appelle La Bibliothèque Infinie. C'est Gameflow qui fait ça, qui est un petit éditeur français. C'est vraiment une super équipe. On travaille avec eux depuis quelques mois, on est ravis. Et donc, dans La Bibliothèque Infinie, vous pouvez explorer en famille la bibliothèque secrète d'un magicien, d'un sorcier même, ouais, qui a volé le livre des savoirs et qu'il va falloir retrouver. Voilà, donc c'est vraiment un livre-jeu à partir de 4-5 ans.
Celui-là, on ne l'a pas, donc je crois que je vais venir faire un tour chez vous.
Ça peut être pas mal.
Et, carrément, pour et les livres-jeux plaisent beaucoup, notamment en bibliothèque. Plus en plus, donc je note. Aussi. Merci, Daïdri.
Merci beaucoup, Anne. Merci à vous, chers auditeurs. Et à très bientôt dans L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain des beurre.